Voilà, bonjour. Une fois de plus, je suis dans la joie d'être au milieu de vous, dans ces lieux qui nous rappellent tellement de souvenirs. Et c'est bon hein, de pouvoir revenir en arrière et d'avoir des bons souvenirs. Parce que souvent, quand on recule des fois dans nos vies, il y a des étapes difficiles, compliquées, douloureuses. Mais là, c'est qu'une suite de bonheur. Donc, ouais, c'est vraiment magnifique. Alors ce matin, donc vous savez que pendant 8 soirées, on a partagé sur des thèmes de la vie chrétienne, des choses très basiques. C'est bon des fois de revenir aux fondamentaux, comme on dit, pour ne pas se perdre dans toutes sortes de chemins sans issue. Et à un moment donné, on aurait dû parler sur le thème du témoignage. Et on sait que le témoignage, en fait, c'est une suite naturelle de notre rencontre et de notre relation avec Dieu. Quand on a rencontré Dieu et qu'on est en relation avec lui, on a des choses à dire sur lui. Et il y avait donc ce thème du témoignage et j'ai dit, ben je le réserve pour un dimanche parce que j'aimerais partager avec vous ce matin une partie de mon témoignage. Et vous verrez pourquoi. Mais d'abord, j'aimerais lire un passage dans la première épître de Jean, au chapitre 1, verset 1. Et ça vous montre tout de suite dans quelle perspective ces premiers chrétiens se situaient, dans cette perspective non seulement d'être les récepteurs de tout ce que Dieu veut nous donner et veut nous faire vivre, mais aussi d'être ces témoins vivants de ce que Dieu fait. Et Jean nous dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Donc il y a quelque chose qui brûlait dans le cœur de ces premiers disciples, de ces premiers chrétiens. Ils avaient vécu des choses, ils avaient expérimenté la présence de Dieu et leur plus grand désir, c'était de partager ce qu'ils avaient vécu. Et puis un deuxième passage que j'aimerais lire, c'est la parabole des trois serviteurs que vous connaissez bien ou la parabole des talents. Dans Matthieu 25, 14, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs, leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième, 1. À chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre de son jardin et cacha l'argent de son maître. Ah, bon. Alors ce matin, je vais me lancer dans un exercice un peu particulier. J'ai eu l'occasion pendant 45 ans de prêcher, de donner des études bibliques, de donner des messages de manière, traditionnelle, hein. Quand on vient à l'étude biblique, on s'attend à ce que le pasteur soit bien préparé, qu'il vous transmette une certaine connaissance, qu'il vous ouvre peut-être une vision nouvelle, une compréhension nouvelle, etc. Mais ce matin, je vais donc vous transmettre non pas un message traditionnel, mais une partie de mon témoignage. Alors, certains parmi vous ont déjà entendu certaines parties de ce témoignage. Ce n'est pas nouveau, hein, je ne vais pas tout d'un coup inventer, j'ai expérimenté. En y réfléchissant un petit peu, j'ai pris conscience d'une chose. On peut douter, on peut remettre en question, on peut débattre des récits, des vérités bibliques. D'ailleurs, c'est ce qui a donné souvent des divisions parce que l'un était pour, l'autre était contre, etc., etc. On peut diverger sur des tendances théologiques ou la manière d'aborder les textes bibliques. On peut douter ou philosopher sur l'existence de Dieu ou pas. mais personne ne peut mettre en doute votre témoignage. Mon témoignage, à part les incrédules, bien entendu. Mais mon témoignage est quelque chose de très particulier. Ton témoignage à toi, j'aimerais que tu l'entendes ce matin, est un outil unique entre les mains de Dieu. Il est efficace entre les mains de Dieu. Et il est capable de toucher même les cœurs les plus endurcis ou les plus incrédules. Dans le psaume 105:1, le psalmiste dit « Faites connaître parmi les peuples ces hauts faits. Faites connaître, partagez, témoignez des hauts faits de l'Éternel. » On pourrait parler de l'homme possédé par un esprit mauvais, de la Samaritaine ou bien sûr des apôtres. Dans Luc 8:39, il est dit, Jésus dit au possédé, « Retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et il s'en alla, publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Ils ont expérimenté quelque chose et ils le transmettent à ceux et celles qui les entourent. Et les disciples de Jésus étaient conscients, dans le fond, de cet impact, de cette puissance du témoignage, parce qu'en Marc 16:15, Jésus leur dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création », donc témoignez de ces choses-là. Eux, ils n'ont pas réfléchi longtemps. Ils n'ont pas dit « Ah non, mais Seigneur, d'abord il faut qu'on ouvre une école, j'irai contre les écoles bibliques, hein, ou une, de haute théologie, et puis une fois qu'on aura compris toutes ces choses, on ira peut-être en parler aux autres ». Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Donc ils avaient quelque chose de tellement fort à raconter, de tellement puissant, qu'ils partent. Et le mot « prêcher » en grec, c'est « kérousso », c'est proclamer ouvertement quelque chose qui s'est passé. Donc on ne raconte pas des histoires. Quand on témoigne, si on est dans la vérité, on témoigne de ce qu'on a vécu. On témoigne de ce qu'on a expérimenté avec Dieu. Donc je vais essayer de partager avec vous mes premiers pas dans la foi chrétienne, en vous démontrant la puissance, et on peut mettre, voilà, c'est bien, la puissance d'un simple témoignage. Et là, j'espère que vous prendrez conscience que votre témoignage est aussi quelque chose d'extraordinaire entre les mains de Dieu. C'est aussi extraordinaire de voir les conséquences qui découlent d'un simple témoignage, et on en parlera dans quelques instants. Donc, le but avoué de ce message ce matin, c'est « Prends au sérieux ton témoignage ». C'est un talent que Dieu t'a donné. Peut-être que ce matin, si je demandais « Combien de talents est-ce que vous avez dans votre vie chrétienne ?» Je ne sais pas, la moitié dirait « Ben, moi, je n'ai pas vraiment de talent, je n'arrive pas trop à prêcher, je n'ai pas de don spirituel particulier, je n'ai pas si, j'ai... » Et quand on fait le tour de la question, on réalise que Dieu nous a donné au moins un talent, quelque chose de précieux. Et ce talent, ça peut être mon témoignage. Alors, je parcours rapidement ma vie d'avant. Voilà, on ne va pas prendre trop de temps. Mais quand même, ça situe un petit peu le bonhomme, comme je dirais. Et puis, on comprend un peu mieux... Je dirais le miracle dont on est l'objet à un moment donné où Dieu intervient dans notre vie. Donc moi, j'ai passé la majeure partie de ma vie, mon enfance, mon adolescence, dans l'eau. D'abord, j'ai passé 9 mois dans le ventre de ma mère, j'étais déjà dans l'eau à ce moment-là. Et puis, mon grand-père, qui était chef garbin de la plage de Bienne à son ouverture en 1936, qui est décédé malheureusement en 1956, j'ai toujours vécu, en tout cas, tout l'été, au bord de la plage de Bienne, j'ai appris à nager, j'ai été nageur au club des Swim Boys, j'ai joué au waterpolo. C'était encore un temps où on jouait des matchs de waterpolo à 16 degrés, l'arbitre venait, plantait son thermomètre dans l'eau à la plage de Bienne parce qu'on n'avait pas de bassin chauffé, ça n'existait pas. Et à 16 degrés, prrr, il sifflait, hop, toute l'équipe dans l'eau. Je peux vous dire que, ben voilà, on n'était pas habitué à plus chaud. Donc on se disait, c'est pas mal aujourd'hui, au moins il n'y a pas la bise. Hein. Et puis, de l'âge donc, de 2 ans jusqu'à 23 ans, j'ai écumé tous les lacs, les bassins de France et de Navarre, de Suisse aussi. Et à 16 ans, après l'école obligatoire, bon, heureusement qu'elle était obligatoire, parce que je m'en serais bien passé Voilà, merci, n'est-ce pas? J'ai fait un apprentissage de 4 ans comme compositeur typographe à l'imprimerie Gassman, qui se trouvait située à 200 mètres d'ici, à l'époque dans le journal du Jura. Et à l'âge de 23 ans, j'en avais assez de tout ça. J'avais envie de voyager, de partir, de changer d'air, d'horizon. Et c'était vraiment une époque où les jeunes me partaient dans tous les sens. Il y avait beaucoup de jeunes sur les routes, en autostop, dans des fourgonnettes VV, tout ça. Ils partaient souvent pour le Népal, Katmandou, enfin vous savez pourquoi. La plupart pour trouver, je sais pas quoi, le bonheur dans le mysticisme ou dans la religion hindoue, les drogues, etc. etc. Et moi, j'entre en contact avec la sœur d'une copine qui me parle de son expérience en Israël, au kibbutz. Et dans ma tête, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Il y a déjà un point de départ. C'est la première fois que je partais vraiment pour un long voyage. Et puis, je me suis dit, ben là, au moins, je suis nourri, logé, blanchi. puis, je travaille un petit peu, donc c'est l'idéal. Et puis, ça peut être un tremplin pour plus loin. Alors, voilà, je fais des démarches. Je reçois l'autorisation de partir en Israël, dans tel et tel kibbutz, à Rechafim, dans la vallée de Jisréel. Et puis j'arrive là-bas et je découvre un monde qui m'était un peu inconnu. Beaucoup de travail dans les champs, il y avait une petite usine de tuyaux d'arrosage, il y avait des dindons, il y avait plein de gens, plein de jeunes de mon âge qui faisaient la route aussi et qui prenaient en fait Israël un peu comme un tremplin, comme je l'ai dit, pour aller plus loin. Alors, je découvre un pays qui est fascinant, riche de plein d'histoires, d'histoires millénaires, et surtout d'histoires bibliques. Et à ce moment-là, je n'étais pas du tout croyant. Je ne cherchais pas forcément à découvrir qui Dieu était. Donc pour moi, c'est un peu une découverte. Il y a bien sûr les histoires bibliques ou du catéchisme qui remontent de temps en temps, et en particulier lorsqu'on arrive au bord du lac de Galilée et puis qu'on est quelques-uns du kibbutz, on discute et tout, on redescend d'une petite colline sur un petit sentier, puis il y a un prêtre qui arrive là, Tabga, là où il y a cette magnifique mosaïque, et puis une petite chapelle, et puis nous commence à discuter avec nous, et puis il nous dit, mais vous êtes venus par où? Et puis il dit, ben, par le petit sentier là. Mais vous savez que Jésus, il a marché la langue. Oh, ça doit faire un choc. Tu dis, comment ça, Jésus, il y a 2000 ans en arrière. Dis, vous savez, quand un sentier est tracé quelque part, c'est rare qu'il disparaisse. À moins qu'il y ait une construction, qu'il y ait un chamboulement voilà, du paysage. Mais d'habitude, un sentier, c'est un sentier et il reste. Et tout d'un coup, je me dis, Jésus, il a marché là. Ah bon, d'accord. Après, il me dit, ouais, mais il a aussi marché sur les eaux. Hein, bon, là, c'est pas. Voilà. Alors, je n'étais pas insensible à ces choses-là, mais je ne trouvais pas la nécessité de vivre quelque chose de particulier avec Dieu. Donc, je passe rapidement sur cette période. Vous savez, comme tout bon Suisse, dans ma tête, au départ, je partais pour plusieurs mois. Bon, j'ai vécu 6 mois quand même en Israël. J'étais ailleurs qu'au kibbutz en Israël. Mais à un moment donné, vous savez, comme tout bon Suisse, on ressent quelque chose en soi qui est de l'ordre du mal du pays. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, je rentre au pays. J'avais l'ennui de mes sapins, de mon lac, de mon chocolat et de ma fondue. Alors, si vous êtes un bon Suisse, c'est ce qui doit vous arriver. Hein. Même pour les frères et sœurs africains, si vous vivez ça à un moment donné, c'est que vous êtes vraiment intégrés. Hein, d'accord. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, ouais, globalement, ce qu'a été mon enfance. Donc, il n'y a rien de particulier, rien de nouveau sous le soleil. Mais à mon retour, une question me taraude. Dans quel milieu est-ce que je vais me réinsérer? J'ai quitté mes copains, mes amis, la natation, club, etc. Mais où est-ce que je vais me situer maintenant? Dans celui du sport? Honnêtement, même en étant un bon joueur de water-polo, j'avais pas tellement envie de repartir de nouveau tous les week-ends, des matchs à gauche, à droite. Il y a des clubs comme Berne ou Zurich qui essayaient de m'intégrer dans leur... Et puis mon père aurait été content, mais j'ai dit non, c'est pas le milieu dans lequel je veux m'inscrire à mon retour. Puis après, il y avait un autre milieu, ce qu'on appelait à l'époque les minets. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est des sorties en boîte, fin de semaine, habillement en vogue. Alors pourquoi pas de temps en temps, mais ce n'était vraiment pas ma tasse de thé. Reste un troisième milieu. Plusieurs de mes anciens amis, dont l'un était aussi un ami de la natation, avaient fondé un groupe de hard rock, on peut mettre la deuxième image, un groupe de hard rock qui s'appelait Electric. Ah, c'est pas ça. Deuxième, il faut. Second one. C'est pas ? Non, deux. Zwei. Doué. Voilà. Ils avaient créé un groupe de hard rock. Et il s'appelait Electric Funeral. Ils avaient un gros bus noir, avec écrit en tout grand. Alors, quand on passait à travers la ville, ils se disaient « Ouh là là, ça y est, il y a le croque-mort qui est en train de… » C'était vraiment très particulier. Alors bon, moi, j'aimais bien la musique. Je jouais de la guitare, je jouais un peu de batterie. Et c'est avec eux que je vais passer une bonne partie de ma vie, juste après ce retour d'Israël. Mais qui dit hard rock dit aussi malheureusement alcool, drogue, lieu et personne peu recommandables. Alors, moi, je n'étais pas porté sur l'alcool ou la drogue, mais vous savez combien l'influence d'un groupe peut être importante, peut vous entraîner au-delà de ce que vous aviez pensé ou imaginé au départ. Et puis, en fait, c'est ce qui s'est produit. Plusieurs d'entre eux ont passé la ligne rouge à un moment donné. Il y a eu même des décès de certains par overdose ou voilà, prise de drogue ou d'alcool. Et heureusement pour ma part, je me suis limité à des drogues dites hallucinogènes. C'était vraiment la mode dans cette période des années 70 jusqu'aux années 80. Des drogues psychédéliques, hein, le LSD, la mescaline, des choses comme ça. De temps en temps, une petite fumette par-ci, par-là. Mais on sait jamais quand est-ce qu'on passe le Rubicon. On ne sait jamais à quel moment, tout d'un coup, on peut être pris dans les filets de l'oiseleur. On ne sait jamais à quel moment on peut dire « Ah non, stop, j'arrête ». Par la grâce de Dieu, j'ai pu dire stop à un moment donné, bien sûr en voyant aussi les dégâts que cela occasionnait dans la vie de mes amis de l'époque. Et c'est alors qu'un événement absolument improbable se passe dans ma vie, avec des répercussions inimaginables. Et c'est là que ça devient intéressant. Ma vie d'avant n'est pas vraiment intéressante, mais c'est ce qui va se passer à un moment précis de mon existence. Durant cette période, alors là, on peut mettre la jeune demoiselle qu'on a vue tout à l'heure. Non, voilà. Cette jeune personne qui avait 16 ans à l'époque, qui s'appelait Marlise, enfin, elle s'appelle toujours Marlise, avec laquelle j'ai eu une relation d'amitié assez forte avant de partir en Israël, reprend contact avec moi à mon retour. Alors, je la redécouvre, je dis « Ah, ben voilà, c'est super. » Puis bon, j'imaginais même, à la limite, reprendre une relation, entre guillemets, amoureuse avec elle. Je la trouvais sympa, je la trouvais… Bref, bon, sa coupe de cheveux, c'est vrai que… Mais c'était les punks, hein, l'appel. Bon, c'est vrai. Mais dès les premiers partages, et c'est ça qui est intéressant, je sens un changement fondamental qui a eu lieu dans sa vie. Je suis surpris par les choses qu'elle me dit. Bien sûr, j'ai constaté tout de suite un changement dans son regard. C'est étonnant, le regard des gens. Ça peut être un regard triste, ça peut être un regard de colère. Moi, je connaissais quand même un petit peu son regard, ses yeux. Et j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de lumière, je ne sais pas, quelque chose qui n'existait pas avant, que je n'avais en tout cas pas remarqué. Quand on dit un regard lumineux, vous savez ce que ça veut dire, hein ? Elle a un regard lumineux. Et elle me partage et me témoigne de ce qu'elle a vécu avec Jésus-Christ, sa conversion, comment elle en est arrivée là, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie. Alors c'est vrai que je suis très surpris au départ et je suis même un peu méfiant parce que je craignais de me faire entraîner dans un milieu sectaire, dans un système religieux, etc. Mais je l'écoute poliment. Voilà, je fais semblant d'entrer dans sa discussion, étant plus intéressé par elle que par son Jésus à ce moment-là, je dois dire honnêtement. Mais je ne suis pas conscient, à ce moment-là précis, que ce simple témoignage. Donc, elle a pas vécu des choses extraordinaires. Elle s'est pas droguée, elle a pas commis de bêtises énormes. Enfin, je me dis, mais c'est juste incroyable. Et sur la base de ce simple témoignage, quelque chose de tout aussi incroyable va se produire dans ma vie. Et va avoir des conséquences insoupçonnées sur mon passé, sur mon présent, mon avenir et mon éternité. Waouh ! Ça ne change pas juste une petite partie de ma vie, c'est en train de faire une œuvre incroyable dans toute ma vie. Et sans le savoir, Dieu a placé une bombe, je voulais dire, à retardement dans ma vie, ou à ces bombes qui explosent, comment est-ce qu'on appelle ça là, les bombes à fragmentation. Mais je ne sais pas à ce moment-là. Parce que dans ces moments de partage, de discussion, et c'est vrai que dans les années 70, on entrait dans les bistrots où les jeunes se retrouvaient et on parlait facilement de choses spirituelles. Hein. Il y a les premiers disciples hindous qui arrivaient ici en Suisse, les gourous, etc. Et je me souviens de discussions entre copains au bistrot. Il y en a certains qui avaient été dans les ashrams, il y en a qui avaient vécu les Beatles aussi, hein, qui faisaient de la réclame. Voilà. Donc, à un moment donné, je me découvre à repasser dans mon cœur les choses que cette jeune fille m'a partagées. Alors que moi, j'avais l'impression que ça entrait dans une oreille, que ça sortait par l'autre, et puis passons à la page suivante. Mais quelque chose fait que pendant la semaine, tout d'un coup, je repasse dans mon cœur ces choses. Mais d'où lui viennent ces pensées? D'où lui viennent ces vérités? Cette vision de la vie, de l'avenir, de l'éternité, de l'amour. Pouh, c'est la première fois que je réalise en fait que oui, il y a bien quelque chose. Et je découvrirai plus tard que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit a été envoyé, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, même sans la présence de Marlise, le Saint-Esprit commençait son œuvre. Sur la base, encore une fois, je vous le rappelle, de ce simple témoignage. Alors, elle m'invite un soir à un groupe de jeunes qui s'appelait J'y crois. On se retrouvait à la rue Basse, là, il y a pas très loin d'ici. Il y a quand même des lieux stratégiques, hein, ici, Gassman, les groupes de jeunes, l'église. Hein, on est en plein dedans, là. Hein. Et voilà, j'arrive pour la première fois de ma vie dans un groupe dit de jeunes chrétiens. Alors, pour moi, c'est un univers, c'est un monde complètement étrange. Imaginez entre le hard rock de Electric Funeral et J'y crois, il n'y avait pas beaucoup de relations vraiment. Hein. Mais voilà, j'arrive là, je m'installe, il y avait quoi, une quinzaine, une vingtaine de jeunes, dont, bien sûr, Jean-Paul et Ruth, puis est-ce qu'il y en avait d'autres à cette époque-là? Non, hein, ils ne sont pas tous là. Donc voilà, je découvre, et puis ça a l'air sympa, ça a l'air chaleureux. Voilà, il y a à un moment donné, il y a un gars qui prend une guitare, commence de chanter des chants, puis ouh là, ils les savent les chants là, hein, et ils chantaient vraiment de tout leur cœur, et je suis un petit peu surpris quand même, et peut-être même un peu mal à l'aise quand on passe au moment de prière. Alors dans ma tête, la prière, c'était un pasteur ou le leader du groupe qui prend une feuille et puis qui lit une prière, comme ça se faisait souvent dans les églises réformées que je connaissais. Et tout d'un coup, une prière à gauche, une prière à droite, tout d'un coup, c'est une espèce de feu d'artifice de prière. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à haute voix hein? Donc, c'était pas des prières apprises, c'était vraiment quelque chose qui sortait du cœur de ces jeunes. Et là, franchement, j'étais vraiment surpris. Et alors, bon, ben, j'ai décidé de retourner. Alors, je retournais un vendredi avec les copains au Bavaria, qui était un peu plus loin, puis un vendredi au groupe de jeunes. Puis je commençais à voir une telle différence hein, dans l'attitude des gens, dans la morale des gens, dans l'éthique, dans l'accueil, tout ça. Et c'était tellement à l'opposé de l'esprit de ce monde dans lequel j'avais vécu jusque-là. Et pourtant, j'ai pas fait des choses terribles dans ma vie, mais on sentait dans ce monde que on essayait d'attraper quelque chose et puis ça coulait entre les mains, ça disparaissait, il fallait chercher autre chose. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait une suite. Hein. Ce n'était pas un vendredi, c'était bien. Puis l'autre vendredi, bon, ben, on verra bien. Ah non, c'était bon. Donc, je découvre qu'il y a vraiment une vie que je ne connaissais pas jusque-là. Ça va, vous suivez ? C'est bon. Et là, je découvre aussi petit à petit le vocabulaire biblique. Parce que moi, je n'avais jamais ouvert une Bible dans ma vie, à part peut-être au cathèque, quand on était obligé de lire un passage qu'on ne comprenait souvent pas. Et je tombe sur le terme, donc la gloire de Dieu. C'était souvent chanté, c'était souvent partagé dans les messages ou les témoignages. Et là, pour moi, jusque-là, ben, la gloire, c'était certaines stars de la pop musique, hein, ou bien dans le sport, qui avaient atteint un sommet, une espèce de gloire, hein, une célébrité. Je pensais aussi peut-être aux saints, parce que quand on va dans les églises, on les voit environnés d'une lumière, et pour moi, voilà, ça pouvait être une image de la gloire. Mais je découvre que dans la Bible, ce mot qui est d'origine bien sûr hébraïque, qui se dit kaobod, signifie être lourd, hein, qui a du poids, qui est riche, qui pèse. Hein. Psaume 66:2, chanter la gloire de Dieu, célébrer sa gloire par vos louanges. Ce qui donne chanter le poids que Dieu peut avoir dans nos vies, la richesse que Dieu peut mettre dans nos vies. Rappelez Joseph, en Genèse 45:13, alors qu'il se retrouve avec ses frères en Égypte, il leur dit « Racontez à mon père ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Hein, » On connaît la puissance, le poids qu'avait Joseph en Égypte, lui qui était devenu un simple esclave au départ, hein, et qui se retrouve là-bas. Donc je découvre que Dieu veut mettre ou peser de tout son poids dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne veut pas seulement pardonner mes péchés, me sauver, ce qui est déjà pas mal, hein, mais aussi déposer dans ma vie, dans ta vie, des choses qui ont une valeur éternelle, pas seulement passagère, comme le monde le fait si souvent. Parce que jusqu'à ce jour-là, j'avais essayé de remplir ma vie avec les choses que le monde me proposait. Mais j'ai très vite et rapidement compris que c'était que des choses passagères. Certaines duraient un peu plus long que d'autres, mais en fin de compte, soit il y avait de la déception, soit de la frustration, soit du ras-le-bol, il faut trouver autre chose. Et on est tout le temps en train de courir après autre chose. Donc pour moi, c'était un temps de révélation et le début d'un changement radical. Vous voyez les incroyables conséquences qu'un simple témoignage peut avoir dans la vie d'une personne. Et ce n'est que le début. Notre témoignage, ton témoignage, est un moyen hyper puissant entre les mains de Dieu pour accomplir son œuvre dans la vie de personnes qui l'entendent. Il va pouvoir l'utiliser et commencer une œuvre en profondeur et enclencher un processus éternel jusqu'au centre de leur cœur, de mon cœur, par l'action du Saint-Esprit. Ça a l'air de rien, mais quand vous pressez sur un bouton dans la nuit noire, la lumière apparaît. Et le témoignage, c'est un peu comme ça. Quand on le transmet, quand on le partage, la lumière se manifeste d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais terminer avec trois exemples de ce que Dieu, dans sa richesse, dans le poids qu'il veut mettre dans ma vie, va faire en moi trois choses, trois domaines dans lesquels Dieu va se manifester de manière surprenante. Et c'est là que cette histoire devient particulière. Elle sort, c'est une histoire sainte, une histoire différente de l'histoire de celle des hommes. Et cette histoire-là, il n'y a que Dieu qui peut l'inscrire en nous. Il n'y a que Dieu qui peut la manifester. Rappelez-vous que tout cela est rendu possible, encore une fois, à cause de ce témoignage hyper simple de Marlise. Alors, elle va toucher d'abord ma vie sentimentale. Là, je crois qu'on est tous concernés par ça. Hein. Tous les êtres humains, à un moment donné, on tombe amoureux, ou on cherche l'âme sœur, etc. Et là, ayant repris des relations entre guillemets amoureuses avec Marlise, moi je me projetais assez volontiers, voilà, dans le futur. Et puis soudain, c'est la stupeur. Un jour, elle vient vers moi, puis elle me dit, écoute, on ne va pas continuer. Il y a une rupture qui vient là dans ma vie, alors que je me projetais déjà plus loin. Elle me dit qu'elle se sent poussée à aider un jeune de son village qui est en train de dériver. Je dis, ouais, bon, voilà, des jeunes qui dérivent, il y en a beaucoup. Mais elle me dit, non, mais je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je sens que le Seigneur m'appelle à... Ouais, il est dans l'alcool, et tout comme ça. Ah, j'ai dit, bon, ben voilà. Et ça, c'était vraiment mon difficile. J'étais encore au groupe des J'y crois. Elle venait avec, avec le jeune en question. Et pour moi, ça a été un moment de doute, un moment de déception. Je me suis dit, mais Seigneur, je ne comprends plus rien, je ne sais pas, mais enfin, délivre-moi de cette situation. Mais je tiens, bon. Alors, entre parenthèses, elle s'est mariée avec le gars en question. Ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, ils ont eu 16 petits-enfants. Donc, 5 enfants et 16 petits-enfants. Alors, dans mon malheur, je crie à l'Éternel. Je lance un ultimatum à Dieu. Je dis, écoute, Seigneur, moi, je sais où aller les chercher, où aller la chercher. Donc, si tu fais rien, ben, je vais me débrouiller tout seul. Alors, ça serait trop long à expliquer, mais quelques temps plus tard, et ça n'a pas duré très long, c'était déjà dans l'autre groupe de jeunes qu'on avait près du lac, là-bas, vers la station d'essence. Là. Ben, un soir, qui c'est qui arrive là, un vendredi, celle qui est devenue mon épouse, Yvette, et qui est devenue mon alter ego, et ça fait 50 ans maintenant qu'on est mariés. Donc, on n'a pas eu autant de petits-enfants, mais... C'est extraordinaire de voir comme Dieu peut conduire notre chemin, nous diriger et nous faire vivre, encore une fois, sur la base d'un simple témoignage, des expériences qu'on n'aurait jamais vécues autrement. Imaginez si Dieu n'était pas intervenu dans ma vie, je ne vous raconterai pas ça ce matin. La deuxième chose, c'est les réalités spirituelles. Quand on devient chrétien, on entend pas mal de choses, on entend des témoignages, surtout dans un milieu dit charismatique. On parle là de guérison, de délivrance, de révélation, des choses miraculeuses, surprenantes que des gens ont vécues avec Dieu. Mais dans ces moments-là, vous pensez ne pas être concerné par ce genre de choses en pensant que c'est réservé à une élite ou à des gens élus ou appelés, des leaders ou des gens qui ont une grande maturité spirituelle. Ben, détrompez-vous. Alors là, je l'ai déjà partagé ici, l'histoire de l'horloge, mais je le rappelle courtement. Dans Apocalypse, au chapitre 22, verset 11, il est dit que celui qui est injuste commet encore des injustices. On a changé... la photo, il faut la changer. Quand on était jeune et beau après. Ciao, Marlise. Voilà. Ça, c'est donc Yvette et moi, il y a 50 ans. Quand même, Ah ouais. Bon, on passe. Donc, dans Apocalypse 22, 11, il dit que celui qui est injuste commet encore des injustices, que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Et Dieu va nous surprendre de façon très inattendue et surprenante, en nous faisant vivre quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la révélation. On part avec le groupe de jeunes, on avait créé un autre groupe de jeunes, les Hosanna, avec des gens un petit peu plus âgés, et on part pour un week-end à la Ligue pour la lecture de la Bible, à Vennes, pour ceux qui connaissent encore. Et on avait un week-end avec Jean-Pierre Besse et puis Philippe et Nancy Descorvet. Ils étaient bien connus, c'était un peu des leaders en Suisse romande, et puis je crois que c'était sur l'Épître aux Romains. Et à un moment donné, Madame Descorvet, qui dirigeait un petit peu le moment de prière, on s'était répartis en différents groupes, nous invite à entrer dans la prière, et nous, dans notre cœur, on se dit, enfin moi en tout cas dans mon cœur, je me disais, mais quelle est la prochaine étape, Seigneur? On venait de se convertir, c'était quand même très frais, c'était récent. Alors quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur, et tout? Et je venais de perdre mon travail, et toi aussi, c'était la catastrophe. Ouais. Et tout d'un coup, cette Madame Descorvet, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, partage une vision. Elle nous dit, je vois un bloc de granit surmonté d'un deuxième petit bloc, Et sur ce bloc-là, il y a une horloge qui est arrêtée à 4 heures. Est-ce que cela concerne quelqu'un parmi nous? Je dis, on était là. Et nous deux, on se regarde avec Yvette. Je peux vous dire, à ce moment-là, il était là, juste à côté de nous. On ne le voyait pas, mais on savait ce que ça voulait dire. Cette vision nous concernait. Et on savait exactement pourquoi. Alors, je vous explique aussi courtement. À mon retour d'Israël, j'ai pris une chambre à Vieilleville, mis des poutres apparentes, c'était un peu voilà, joli, peint en brun. Tout. Puis j'avais envie de mettre des choses agréables, des choses qui sont belles. Et je me souvenais que dans le collège où mon père était concierge à Madrech, il y avait un galta, et dans le galta, il y avait un mouvement. Parce qu'à l'époque, on ne sonnait pas avec une sonnette électrique, c'est des cloches qui annonçaient aux élèves que la leçon ou la récré arrivait et était terminée. Et moi, je me suis dit, elle n'est plus utilisée. Enfin, ce mouvement n'est plus utilisé. Donc, un soir, je monte dans le collège. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît? Non. Je monte dans le collège. Je regarde ce magnifique mouvement qui a pris cette grandeur, puis je me dis, celui-là, il ferait bien dans ma chambre. Alors je le prends, il faisait au moins 15 kilos minimum, et puis je l'installe dans ma chambre avec un grand balancier et tout. Alors tous ceux qui venaient dans ma chambre disaient, oh Dieu, c'est joli, ça tasse à deux, copain. Voilà. Et je demande à Dieu, mais quelle est la marche suivante? Quelle est l'étape suivante? Que celui qui est injuste commette encore des injustices, que celui qui est sale salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Alors, qu'est-ce que voulait dire Dieu? Mais le bâtiment, il y en a encore une là. Ouais, voilà, vous voyez? Un bloc de granit surmonté d'un deuxième petit bloc et la montre arrêtée à 4 heures. Et ce qui est incroyable, c'est que la semaine d'avant, avant de partir à ce camp, à ce week-end, Yvette va à la fenêtre d'une jeune qui venait dans notre groupe, qui habite juste en face, elle regarde le collet, elle regarde la montre et dit « Ah, c'est marrant, elle est arrêtée à 4 heures, cette montre. » Elle est arrêtée, pas seulement, c'était juste 4 heures, elle est arrêtée à 4 heures, puisqu'elle ne fonctionnait plus à ce moment-là. C'était le soir, donc ça ne pouvait pas être 4 heures. Donc c'est incroyable de penser que Dieu, dans son omniscience, c'est exactement ce qu'Alain Pilecki a fait en rentrant d'Israël, en allant piquer ce mouvement et en le mettant dans sa chambre et en mentant, en fait, en disant « ouais. » Et je savais quelle était la prochaine étape, remettre les choses en ordre dans ma vie. Ces petits détails qui font la différence. Soit on se dit « ouais, c'est pas important, de toute façon, bref. » Et voilà. Alors, je profite d'un jour, je me dis, je vais ramener ce mouvement, je vais remettre les choses en place, et puis voilà, ça sera une chose de faite. Alors, je savais à peu près à quelle heure il n'y avait plus de prof, le directeur n'était pas là, je me dis, voilà, je monte, hop, je grimpe dans les étages, j'arrive au galta, je remets le mouvement en place, alors on peut passer la suivante cette fois. Hop, je la mets en place, puis il y avait plein de câbles qui pendaient. Je me dis, je vais quand même accrocher un ou deux câbles comme ça, et je tire un des câbles, et c'était les cloches. Badaing, badaing, badaing. Oh là 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 là, je me dis, peu cher, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je ne pouvais pas les arrêter, puisqu'elles étaient encore en dessus. Puis je descends les escaliers, et voilà que mon père arrive. Je dis, c'est toi qui as sonné les cloches, qui me dit? Puis je lui explique un peu la situation. Je n'ai pas dit spirituellement ce qui se passait parce qu'il n'aurait pas compris. Et il dit, d'accord, etc. Puis j'avais la conscience tranquille, mais franchement, je n'avais pas vécu un bon moment à ce moment-là. Ouais. Voilà, donc on voit que c'est quelque chose d'incroyable ce que Dieu peut nous donner de vivre. Encore une fois, rappelez-vous, parce qu'une jeune fille de 16 ans a juste partagé son témoignage. Ça a été... C'est une bombe à retardement, c'est quelque chose qui, à un moment donné, explose dans notre vie, c'est une explosion de vie, pas de mort. Et j'aimerais vraiment que vous reteniez ça ce matin. Voilà, Alors le troisième, et je termine, c'est le Dieu de l'impossible, parce qu'on parle beaucoup du Dieu de l'impossible, n'est-ce pas? Et on aime bien rappeler les histoires d'Israël, les choses incroyables, la traversée de la mer Rouge, etc., l'entrée en terre promise, en fait, tout ce qu'ils ont vécu. Mais pour nous, est-ce que c'est vraiment le Dieu de l'impossible? Marc 10, 27, Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors là, vous êtes concernés, quelques-uns encore parmi vous ici, par ce qui s'est passé avec notre départ à Fribourg. Là, c'est quelque chose qui commence en 79. Gilbert Schwertzmann reçoit un appel, qui était donc pasteur de l'Église, reçoit un appel d'un jeune de Genève qui a commencé une œuvre d'évangélisation dans la ville de Fribourg, qui rassemble une quinzaine de jeunes, et il lui demande de venir parrainer ce groupe. Alors Gilbert y va, puis il arrive là, puis il découvre qu'en fait, il n'y a pas d'église évangélique à Fribourg, même dans tout le canton à ce moment-là, peut-être à part quelques groupes de chrétiens, voilà, qui se rassemblent. Pas d'église évangélique. Puis un jour, il me partage ce fardeau, il me dit, mais écoute, enfin, il nous partage ce fardeau, il dit, écoute, il n'y a pas d'église évangélique à Fribourg, tu ne voudrais pas prier ? Puis demander au Seigneur si ça ne serait pas le moment. Oh là là, je me dis, non, mais moi, je n'ai pas fait d'école biblique, j'ai fait à peine l'école primaire, pas d'école biblique. Bon, bien sûr que j'ai appris des choses dans l'Église, mais voilà. Et puis il me dit, mais écoute, allez à Fribourg avec ta femme, puis vous allez dans les rues et vous priez. Et vous demandez à Dieu si c'est sa volonté. Alors nous, naïfs comme on est, ben, on y va. Puis on arrive à Fribourg. Moi, je n'avais pas des très bons souvenirs à Fribourg parce qu'à chaque match de waterpolo, il y avait des bagarres, tapés, il y avait des blessés. Non, mais c'est vrai. Hein, la moitié de l'équipe travaillait à la brasserie Cardinal. Ils étaient un peu sous soleur. Bon, moi, je n'avais pas des bons souvenirs. Hein. Et puis, on m'invite à un moment donné aussi à une de ces rencontres de jeunes. J'y vais pour apporter un message, un témoignage. Et petit à petit, les choses se mettent en place. Mais c'est incroyable. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous sommes au début 81. On a partagé aussi, bien sûr, la vision avec l'Église. Nous, on a dit qu'on cherchait un couple, éventuellement une famille qui viendrait avec nous. On ne voulait pas partir tout seul. Et lors d'un pique-nique d'Église, voilà que les D'Apozzo, Eric D'Apozzo et Suzy viennent vers nous et disent « On a entendu dire que vous partiez à Fribourg. Nous, ça nous intéresse. » L'oncle d'Éric D'Apozzo, c'est Erino D'Apozzo, qui était très connu dans les milieux évangéliques parce qu'il était évangéliste, puis il avait été arrêté par les Allemands, camp de concentration, bref, tout ça, il était connu. Alors, on était un peu étonnés parce qu'on n'avait pas de relation particulière avec eux. Voilà. On a commencé de se retrouver, on a commencé de prier, etc., etc. Et on apprend qu'à Fribourg, une maison, on est allé plusieurs fois, mais on n'a rien trouvé, mais qu'une maison est libre dans cette ville de Fribourg, c'est une grande maison. Ah bon ? Ben, il faut savoir où elle est. Ah, oui, puis le loyer, voilà. Et il y a un pas de foi incroyable. Éric D'Apozzo décide de prendre un travail à Fribourg. Il était aussi dans l'imprimerie. Et il trouve une place. Et le lundi, alors qu'il devait commencer, le dimanche, sa voiture tombe en panne. Il téléphone Galin. Je suis embêté, je n'ai pas de voiture, ma voiture est en panne, est-ce que tu pourrais m'amener à Fribourg demain ? Alors je dis, ben oui, lundi, en principe, il n'y a pas de problème. On part tôt le matin, on arrive le long de la gare, à un grand carrefour, feu rouge, on s'arrête au feu rouge, et je regarde à gauche, et je vois une grande maison. Alors là, on peut peut-être la mettre aussi, la prochaine. Une grande maison, dans un immense parc, avec des parkings près de la brasserie Cardinal de l'époque. Et on s'arrête, et on avait encore un peu de temps, on dit, on va regarder ce qui se passe avec cette maison. Tous les stores étaient baissés, sauf celui de la cuisine. Et puis on regarde dans la cuisine, là derrière les barreaux, rien du tout dans cette cuisine. Oh, mais elle est peut-être libre, c'est peut-être cette maison dont on nous a parlé. On peut passer la prochaine ? Et je dis à Eric, ben écoute, va au travail et moi j'essaye de trouver quel est le propriétaire de cette maison. Alors j'arrive, puis il y a les ouvriers de la Cardinal qui parquaient leur voiture, qui descendaient à la brasserie. Puis je leur arrête un, je dis, vous savez à qui appartient à cette maison ? Oui, il faut aller de l'autre côté, c'est la Cibra Management qui s'occupe des bâtiments de la Cardinal. Ça, c'est la maison. Hein. Rien n'est impossible à Dieu. Et j'entre dans ce bâtiment, il y a une secrétaire, puis je lui partage la chose, elle me dit, comme ça, très naturellement, ah oui, 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 elle est libre, la maison. Oh, j'ai mon cœur qui a commencé de battre la chamade, là. Et puis, elle me dit, vous voulez la visiter? Ben, j'ai dit, ben, si c'est possible, oui. Et là, le long du chemin, elle me raconte, on arrive, déjà, l'entrée, il y avait une penderie avec des petits anges qui étaient peints au plafond. Je me dis, oh, ça commence bien, hein, c'est les anges nous accueillent. Puis après, un immense hall d'entrée avec un escalier monumental en bois de chêne. Enfin, une maison de combien 15 pièces en tout, avec cuisine agencée. Et puis j'ai dit, oui, mais attendez, elle est vraiment libre, cette maison. Est-ce qu'on pourrait éventuellement la louer? Puis elle me dit, écoutez, le responsable du management des maisons, tout ça, il est en vacances actuellement, mais je lui dirai de vous contacter à son retour. Et là, je peux vous dire que ça a été un temps très, très long. Une semaine, on avait l'impression que c'était 6 mois. On attendait tous les jours son numéro. Et un jour, le lundi ou mardi, voilà, le téléphone. Bonjour. Ah ben oui, effectivement, voilà, vous pouvez venir sur place, est-ce qu'on peut discuter de la chose? Oui, oui, bien volontiers. On arrive, toute l'équipe, alors on était, hein, les Dapozzo et nous. Et puis on arrive là, dans son bureau, on commence à discuter, on partage notre vision, sans être trop spirituel non plus. Hein. Mais on avait vraiment envie d'accueillir des gens dans cette maison, des gens en difficulté, etc. Et puis le gars, à un moment donné, il nous dit, bon, ben écoutez, oui, d'accord, on est prêt à vous la louer. Est-ce que ça vous va 1500 francs par mois? Oh, on s'est regardé. Une maison comme ça, 2000 mètres carrés de terrain, sans compter le parking, pour 2000 francs par mois, 1500 francs par mois, on prend tout de suite. Et moi, je dis, écoutez, ah non, mais écoutez, vous avez le temps de réfléchir ce week-end, qui me dit. Puis on avait envie de dire oui, mais on prend tout de suite. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, on a peut-être besoin encore d'un petit signe de Dieu, je ne sais pas. Alors bon, et pendant le week-end, on prie et on dit 1350. On y est. Ouais, donc impossible aux hommes. Voilà. Mais on ne peut pas parler de tous les détails, ça prendrait trop de temps. Mais pour vous dire que le lundi, quand on retourne, on lui dit, on est d'accord pour 1350 francs par mois, donc le couperet pouvait tomber. Ah, il dit, non, écoutez, désolé. Hein. Il dit, ah ouais, bon, d'accord. Mais voilà, après, il y a eu. Donc, c'était juste pas possible humainement parlant. Impossible humainement parlant. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà, je termine, parce qu'il faut bien terminer à un moment donné, parce qu'un témoignage, ça peut durer. Hein. Et puis, en septembre 1982, l'église de réveil de Fribourg naît. Et là, toute l'église de Bienne était présente. Et par la suite, on a fait encore une fête au jardin, etc. C'était extraordinaire. Donc, tout cela a pu être rendu possible. Rappelle-toi ça ce matin. Quand tu quittes ce lieu, tu peux oublier tout le reste. Mais parce qu'une jeune fille de 16 ans a commencé de partager son témoignage. Vous n'êtes pas, et je ne suis pas conscient ce que Dieu peut faire avec ce rendu compte. Voilà, je me suis converti. Et je pense que des fois, on est trop compliqué en tant que chrétien. Quand on partage avec quelqu'un, nous, on veut tout de suite aller dans des passages de la Bible. Les gens, peut-être qu'ils ne comprennent rien du tout. Mais si vous regardez votre vis-à-vis en face et que vous dites, est-ce que tu es d'accord qu'on prenne un petit moment de temps pour que je puisse partager ce que j'ai vécu. Et là, la personne va vous écouter. Et puis vous l'entraînez, en fait, dans cette histoire sainte, une histoire incroyable. Pas besoin d'avoir passé par tous les états d'âme avant d'y arriver. Rien que de partager ça. Et ça peut avoir des conséquences. Donc, le témoignage, votre témoignage, est un outil unique et puissant entre les mains de Dieu. Et il peut faire des choses extraordinaires. Alors, je termine avec ce texte de Matthieu 25, 14. Il est question de talent. Donc, l'un des serviteurs en reçoit qu'un. Ben, au lieu de le faire fructifier, il va l'enterrer dans son jardin, ou je ne sais pas où. Ben, il n'a rien rapporté. Et parfois, je me dis, mais Est-ce qu'on a oublié ce talent du témoignage? Ton témoignage est unique. Moi, je le dis encore, moi, ce qui m'a le plus touché quand je suis venu au J'y crois, c'est Jean-Paul et Ruth, qui fréquentaient déjà à ce moment-là, mais on ne voyait rien, parce qu'ils étaient disponibles pour les autres. Et quand j'ai su qu'ils fréquentaient, je me suis dit, mais comment ils font? Parce que de l'autre côté, je peux vous dire que ça se voyait quand... prenez pas des gants, là. Et je me disais, mais comment ils arrivent à faire ça? Donc, ce n'est pas un témoignage compliqué. Mais pour moi, c'était un monde à l'envers. Et c'est ce monde-là dont j'avais besoin. Alors, voilà, j'ai terminé par prier. Et je vous encourage donc à ne pas enterrer peut-être votre seul talent, mais c'est un talent qui vient de Dieu, rappelez-vous ça. Faites-le fructifier. Et en partant d'ici, peut-être que vous aurez dans votre chambre, là, dans le lieu secret, là où ton père te voit et te le rend, peut-être qu'il vous demandera de prendre la pelle et la pioche, de sortir ce talent et dire, voilà, Seigneur, je te l'offre. À partir d'aujourd'hui, quand tu m'en donnes l'occasion, je vais partager ce que tu as déjà fait dans ma vie. D'accord? On va prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu qui nous surprend. Qui nous surprend alors qu'on ne te connaît pas, qui nous surprend quand on te connaît et qui nous surprendra encore quand on te verra, quand on sera face à face avec toi. Merci pour ces moments clés de nos vies où tu envoies des témoins vivants qui partagent simplement ce qu'ils ont vécu avec toi. Et toi, dans ta grâce et dans ton amour, tu l'utilises pour transmettre cette vie éternelle. Tu suscites en nous un processus incroyable. Un jour, on sera avec toi pour toujours. Un jour, nos yeux verront en réalité ce royaume de Dieu. Et je te prie pour que nous puissions être de ceux et de celles qui faisons fructifier ce talent que tu nous as donné. Et je te demande pour mes frères et sœurs qui sont ici présents de susciter en eux ce désir et de t'offrir en fait ce talent et de ne pas le laisser cacher dans un coin de leur vie en pensant que ça ne vaut pas la peine. Seigneur, quand tu utilises nos témoignages, Seigneur, tu fais l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Voilà, maintenant vous savez tout, hein. J'ai plus rien à vous dire. J'ai plus rien à vous dire, j'ai tout dit.